Iroquois aux membres du peuple Wabanaki qui nous écoutent. Salut, je me présente Louis-Philippe Renaud. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime la vie. Plus j'apprends à la découvrir, plus je suis touché par sa beauté, par sa fragilité. Je réalise ce balado parce que j'ai envie d'aller à la rencontre de personnes qui ont le goût, comme moi, d'en prendre soin. Bienvenue à Juste pour vivre. Commençons par souligner que nous sommes ici pour parler de la relation aux vivants sur le territoire non cédé de la communauté autochtone Wabanaki. Surtout et tout simplement parce que les Premières Nations ont saisi bien avant nous l'importance de cette relation. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une belle émission qui va aborder de front la philosophie avec un invité que j'ai réussi à trouver ici à l'Université de Sherbrooke, Alain Letourneau, qui est un philosophe depuis 2004. Il enseigne comme professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. C'est un professeur invité, un collaborateur de différentes universités en Allemagne et aux États-Unis, professeur associé à l'Université Laval, intérêt marqué pour l'éthique environnementale, la philosophie politique, la philosophie, le dialogue, la gouvernance, la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, le vivre ensemble, la culture. Il y en avait d'autres dans ta présentation. Alain, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ouais. Je commencerai avec la grande question des philosophes. Pourquoi? Pourquoi t'intéresser à tout ça? Pourquoi la philosophie pour toi?
Écoute, la philosophie, d'abord, c'est une interrogation sur le monde qui nous entoure. C'est un effort réflexif de comprendre dans quel monde on vit. Puis c'est aussi, traditionnellement, la philosophie se pose des questions. Hein? On est au courant de ça. L'une des questions que la philosophie se pose depuis très longtemps, c'est la question de que devons-nous faire ou quelle est la bonne action? Alors, c'est ce qu'on a appelé après l'éthique. Bon, c'est simplement de réfléchir sur notre agir dans le monde. Bon, ça, c'est une des questions, mais il y en a beaucoup d'autres, comme par exemple, comment on fait pour connaître le monde? Ça, c'est une autre question classique de la philosophie. Alors, les philosophes sont des gens dont le métier est de développer ces questions-là, puis d'entrer en dialogue avec des gens de la société civile et de discuter avec eux de ces mêmes questions.
Puis pourquoi toi, Alain, tu t'intéresses à la philosophie?
Ben, j'ai toujours été fasciné par ces questionnements-là et intéressé depuis mon plus jeune âge. Je veux dire, j'ai réfléchi à ces enjeux-là, j'en ai discuté avec mes proches, que ce soit les parents, les professeurs, la famille, les amis, etc., etc. Et de fil en aiguille, ben, j'ai toujours continué, là.
Merci. Je t'ai invité parce que notre balado, c'est au cœur de la biodiversité, de la relation au vivant. Et justement, c'est dans tes grandes préoccupations puis dans des grandes réflexions. J'aimerais qu'on commence à aborder l'émission avant toi. Je recevais Dominique Gravel, qui est un biologiste que tu connais bien, je pense. Et on jardait de biodiversité. Mais là, j'aimerais ça l'aborder du point de vue de la philosophie. J'aimerais ça, comment on peut, pour un philosophe, comprendre la question de la biodiversité?
C'est une question difficile et là-dessus, on est en dialogue avec les sciences qui s'en occupent. Hein. C'est pas pour rien que, par exemple, Dominique Gravel, on a discuté ensemble à un moment donné, lui et moi, sur ces enjeux-là et ça a été fort intéressant comme échange. Mais bon, en gros, la biodiversité, c'est la diversité des formes du vivant. C'est en même temps l'ensemble des formes du vivant sur la Terre. Mais ça se complexifie parce qu'il y a ce qui concerne, par exemple, le génome, donc tout ce qui est à un niveau microscopique, si on peut dire. Il y a une diversité à ce niveau-là. Il y a une diversité entre les espèces, puis il y a une diversité des écosystèmes aussi en plus. Donc, il y a plusieurs niveaux de biodiversité qui forment de fait un ensemble dynamique en interaction où les différentes composantes sont forcément dépendantes les unes des autres. Maintenant, c'est une science qui n'existe pas depuis si longtemps que ça, la science de la biodiversité. On travaille sur le vivant depuis avant Aristote, c'est clair, mais en même temps, comme domaine d'objets spécifiques qu'on investigue, il faut aller aussi dans le 19e siècle que ça commence en fait à se mettre en place, puis surtout au 20e siècle. Donc, c'est encore des disciplines nouvelles.
Et on le réfléchit comment en philosophie, la biodiversité, dans tes cours que tu donnes ou autre? C'est quoi la manière de l'aborder au point de vue philosophique pour toi?
Ben déjà, c'est de comprendre un peu la complexité qui est impliquée là-dedans, ce que je viens de dire brièvement. Là, je pourrais pas aller beaucoup plus loin maintenant. Mais évidemment, comme philosophe, l'un des problèmes qui nous préoccupe le plus, c'est comment on discute de la valeur de la biodiversité. Mmh. Parce que traditionnellement, tout à l'heure, je te parlais du questionnement éthique qui consiste à se demander quoi faire, comment faire, quelle est la bonne action. Mais traditionnellement, dans l'espèce humaine, on est habitué de poser le problème éthique uniquement en termes de relations entre les êtres humains. Des bons exemples de ça, c'est « tu ne tueras pas »,« tu ne voleras pas ». Donc, ce sont des espèces de commandements traditionnels qu'on retrouve d'ailleurs aussi en Orient, pas seulement en Occident, qui sont là pour moraliser, on va dire, les relations entre les humains. Donc, nous donner des espèces de règles morales pour éviter de faire du tort aux autres êtres humains. Mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on se pose la question de nos responsabilités par rapport à la nature, au monde vivant non humain. On commence à peine à faire cette réflexion-là. Ça commence dans les années 40 du 20e siècle avec quelqu'un qui s'appelle Aldo Leopold qui va publier l'Almanach du Comté des Sables, notamment. Ça, c'est un des grands fondateurs. Il y a eu quelques devanciers au 19e siècle, des gens comme Muir et Pinchot, des gens comme ça, mais ça fait pas longtemps qu'on se pose ces questions-là.
L'arrivée de ces réflexions-là nous amène à composer avec une nouvelle réalité dans notre société, notre famille, nos structures sociales, notre économie.
Ça a des impacts parce que si on estime que le vivant mérite d'être protégé et d'être conservé pour lui-même, si on estime que le monde vivant non humain doit être préservé parce qu'il a une valeur intrinsèque, ben ça va nous amener à en tenir compte quand on va prendre des décisions. Je te donne un exemple concret. Si on veut développer une autoroute quelque part en banlieue de Montréal, et ça s'est passé il n'y a pas si longtemps, et qu'en faisant ça, on va détruire des milieux humides et on va détruire l'habitat de certaines espèces sensibles menacées d'extinction, ben là, tout à coup, on va être obligé d'en tenir compte et on n'est pas habitué de faire ça dans le sens où, traditionnellement, dans notre façon d'évaluer les choses, ce n'est pas important parce qu'on prend la nature pour acquise et les développeurs font leurs projets, répondent à des besoins de société. Là, on a besoin de développer une autoroute parce qu'il y a plus de monde et patati et patata, et donc on y va avec l'autoroute. Et on ne regarde pas la question de la conservation des milieux naturels qui sont là, notamment les milieux humides, où on va trouver plein de batraciens, de poissons, de plantes, d'insectes, de toutes sortes, qui n'ont pas l'air d'être si intéressants que ça, d'un certain point de vue, mais que si on les regarde plus attentivement, mais ils sont très intéressants et il faut les préserver.
Ça génère des tensions, on le voit là. Le Norvolt est un sujet récurrent qui évoque très bien ce que tu viens de nommer. Comment la philosophie peut nous aider à mieux dialoguer dans toutes ces tensions-là qui sont nécessaires parce qu'au final, il faut se positionner à un moment donné si on veut prendre soin ou non de quoi?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a deux questionnements philosophiques de base qu'il est intéressant de connaître. C'est la discussion sur ce qu'on appelle la valeur intrinsèque du vivant, et en particulier du vivant non humain. C'est la question de savoir, est-ce que le vivant non humain a une valeur indépendamment des usages que nous pouvons en faire? Ça peut sembler abstrait comme question, mais ça a quand même de l'importance. Et je ferai un contraste entre cette perspective-là ou ce questionnement-là, puis une autre perspective très importante aussi, c'est celle des services écologiques, où dans le fond, on va avoir tendance à regarder le vivant, et c'est pas nécessairement problématique hein, en soi de le faire comme ça. On va regarder le vivant en termes de qu'est-ce qu'il nous apporte à nous comme être humain. Donc, on va dire, l'ensemble du vivant, la biodiversité, fournit des services écologiques. Et là, on va essayer de comprendre ces services écologiques et même de leur attribuer une certaine valeur. L'une des difficultés qu'on a aussi, en même temps, c'est que notre pensée économique, donc notre théorie économique, n'est pas habituée du tout à prendre en compte le facteur écologique et le facteur du vivant dans ses calculs. Parce que je te donne un exemple, le pétrole en lui-même, il est gratuit, dans le sens que c'est une ressource qui est dans la nature. Ce qui est coûteux, c'est quand on envoie un ensemble d'industriels, qu'on installe un système pour percer le sol, pour récolter le pétrole, pour le mettre dans des camions, pour le promener d'un bord à l'autre. Donc, notre économie classique depuis le temps d'Adam Smith et compagnie prend la nature comme un donné qui est gratuit, qui est disponible, et ne lui donne pas de valeur en tant que telle. Donc, on ne reconnaît pas l'économie comme théorie classique, a beaucoup de mal à reconnaître la valeur de ce que la nature nous apporte. Elle n'est pas habituée du tout comme discipline. Et là, ça commence depuis à peu près 60-70 ans, il y a des nouveaux courants en économie, on va appeler ça l'économie écologique, qui tentent de rendre compte de ces aspects-là, puis d'attribuer ou de reconnaître la valeur des services écologiques et de reconnaître la valeur des écosystèmes, de la biodiversité. Mais ça pose des problèmes de comment tu fais pour attribuer cette valeur, puis comment tu fais pour la faire rentrer dans des calculs qui vont faire en sorte que le décideur politique ou le décideur économique va pouvoir en tenir compte dans sa prise de décision. Ça, c'est... Mais vois-tu, ça, c'est un courant très important qui, aujourd'hui, est une façon de prendre en charge cette question de la biodiversité. C'est on va essayer de la traduire en termes de valeur économique. Pour moi, comme philosophe, là où je m'interroge, c'est à savoir si on ne devrait pas, en même temps et préalablement, s'interroger sur la valeur du vivant non humain en tant que tel, puis lui attribuer sa vraie valeur. Mais ça présume aussi d'une autre discussion qui est celle qui concerne ce qu'on appelle la considérabilité morale. Ça, c'est un autre philosophique, ouais. Là, la discussion sur la considérabilité morale.
Ouais.
Ça, c'est les éthiciens de l'environnement qui ont beaucoup travaillé sur ça.
Okay.
En gros, c'est la question de à quoi ou à quels êtres devons-nous la considération morale? Alors, c'est évident qu'entre nous, les humains, on va dire on se doit une certaine considération morale parce que, supposons, moi, il faut que je te respecte, toi, il faut que tu me respectes, etc. Tu sais,
C'est même judiciarisé.
Tout notre système de règles, de lois est là pour assurer ce vivre ensemble. Et on s'entend tous, je pense, les gens qui ont réfléchi un petit peu pour dire que le cadre juridique ne suffit pas à ça. Il nous faut aussi une culture, il nous faut aussi une éducation, il nous faut un vivre ensemble à l'intérieur duquel on apprend à agir en se respectant mutuellement puis en tenant compte les uns des autres. Donc,
même des compétences relationnelles.
Il y a des compétences relationnelles qui sont impliquées là-dedans. Il y a des compétences dialogiques, des compétences réflexives, la capacité de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre quand j'agis, de prévoir un peu si je suis bousculant avec cette personne-là, mais peut-être que cette personne-là va être blessée, etc. C'est ce genre de réflexion.
C'est déjà complexe. Et là, on ajoute la nature.
C'est déjà
complexe.
Ajoute la biodiversité. Oui. Alors, puis la simplicité des choses entre humains, c'est qu'évidemment, les humains sont capables de parler. Fait que si, supposons, moi, je te blesse, mais toi, tu es capable de me dire « Hey, tu m'as blessé. » Donc, on est capable de s'ajuster mutuellement. Mais l'arbre dans la forêt, je peux pas, tu sais, il communique pas vraiment. Je suis obligé d'interpréter les signes qu'il me donne. En étant un scientifique, je vais être capable de voir, mettons, que l'arbre est malade. Je vais être capable de décoder une certaine situation qui se passe dans le monde du vivant. Même chose si tout à coup, je m'aperçois que il y a moins de grenouilles, il y a moins de papillons, etc., etc. Donc, et actuellement, on est là. On mesure des pertes quantifiées de quantité de vivants sur la Terre. On a des données là-dessus. Et là, c'est des scientifiques qui travaillent sur ça. Hein. C'est un domaine de recherche extrêmement poussé. Je peux peut-être mentionner en passant la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les sciences écosystémiques, qu'on appelle LIBBES, selon l'acronyme anglophone. Donc,
L'équivalent du GIEC, la biodiversité.
Tout à fait, qui est l'équivalent du GIEC. Alors, si on veut s'informer là-dessus, il faut aller sur le site de LIBBES, il faut aller lire les documents, les revues scientifiques qui portent là-dessus. On a des beaux vidéos aussi qui existent, qui nous expliquent comment les différents régimes du vivant actuellement, qu'on parle des insectes, des batraciens, des poissons, des mammifères et tout ça, comment ces différents régimes-là sont atteints de manière différente pas de manière égale. Ça dépend aussi des territoires. C'est complexe. Là. C'est pas, la situation n'est pas la même pour tous les vivants non humains. Mais toujours est-il que on est en train aujourd'hui de mesurer cette perte de biodiversité. Mais ça, c'est un autre des problèmes qu'on a au point de vue de la connaissance, c'est que on le voit pas à l'œil nu. Tu sais, je veux dire, comprends-tu, il continue d'avoir des quand même quelques grenouilles, il continue quand même d'avoir des poissons, il continue d'avoir des oiseaux. L'être humain, en lui-même, naturellement, là, est pas équipé pour constater la perte de biodiversité. Donc, il est obligé de faire appel à des sciences spéciales, donc des scientifiques qui ont passé des années et des années d'études pour aller documenter cette affaire-là, développer des outils de mesure convenables pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis de nous donner après un portrait de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Fait que ça, c'est...
J'ai tellement de questions, Alain. je vais commencer par celle-là. Au fond, là, la nature communique avec nous. Quand on dit qu'entre humains, on peut communiquer, mais moi, si j'ai très, très chaud l'été puis que je sais que c'est pas normal d'avoir aussi chaud que ça parce qu'on est en pleine canicule puis il y en a beaucoup et que j'entends à la radio que, bon, il y a plus de mortalité puis c'est à cause des changements. Il y a une forme de communication du réel qui est là. Hein? L'environnement, la nature, les feux de forêt cet été, on avait de la misère à respirer. Certains avaient... Alors, c'est pas une communication orale, mais au final, on est en relation directe avec les impacts que ça a sur nous, l'environnement, non?
Écoute, moi, je trouve super intéressant ce que tu apportes. Quelle est, par contre, la médiation qui nous amène tout ça? Tu sais, comme l'histoire des feux de forêt.
Ouais.
Bon, il y a des gens qui ont vraiment, qui étaient à côté des feux de forêt. Eux, c'était une expérience empirique qu'ils avaient. Il y a les gens qui, étant dans des grandes villes, ont vu des gros nuages épouvantables, notamment à New York, à Manhattan. Mm-hmm. Il y a eu plus de gros nuages à Manhattan de toxiques là, qui venaient des feux de forêt du nord du Québec qu'il y en a eu à Montréal ou à Québec. Mm-hmm. Alors que géographiquement, ou à Sherbrooke, alors que géographiquement, on est beaucoup plus proche. Mais là, tu vois, donc, et c'est passé par les médias pour beaucoup de gens. C'est parce qu'ils ont lu le journal, c'est parce qu'ils ont écouté la télévision, ils sont allés sur Internet, que là, ils ont su que, ah, il y a des gros feux de forêt, c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est ça? Notre connaissance, elle est aussi médiatisée par des instruments de communication qui sont, en l'occurrence, les médias. Bon, bien que certains ou certaines d'entre nous qui étions proches des feux, on l'a vécu peut-être directement, mais beaucoup de gens ne l'ont pas vécu directement. Donc, encore là, notre système médiatique est un moyen, un dispositif qui est là, dont on peut se servir, plus ou moins adéquatement, évidemment, aussi, là, pour rendre compte de qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de nous. Mais pour revenir à ma question de la considérabilité morale, alors, un enjeu philosophique, je reviens là-dessus, enjeu philosophique fondamental, c'est est-ce que nous ne devons pas une certaine considération morale aux vivants non humains, donc à l'ensemble des vivants non humains? Et là, il y a tout un ensemble de débats là-dessus.
Oui.
Comment on prend ça en compte? Alors, il y a des gens qui disent « tout vivant mérite la considération morale ». Il y en a d'autres qui disent « non, c'est en particulier le vivant sensible qui est capable de souffrance et de plaisir ». Moi, j'ai tendance à me rallier à la position plus écosystémique, c'est-à-dire c'est à la fois les vivants particuliers, mais c'est aussi les vivants particuliers dans l'ensemble du vivant, donc dans la biodiversité, et de prendre en compte les choses à ce niveau-là. Mais c'est moins facile d'y aller comme ça parce que t'as pas l'interlocuteur est plus indirect. Il n'y a pas d'interlocuteur direct. Tu es obligé de passer par un ensemble de médiations technologiques et scientifiques pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe.
Si tu choisis d'aller par là, est-ce que quelque part je réduis mon rapport très proche de l'individualisme? Parce que est-ce qu'il faut que j'en sorte de mon individualisme pour aller vers une relation comme celle-là qui est plus une considérabilité morale qui inclut beaucoup plus largement que ma personne?
C'est une excellente question. Ça demande une prise en compte des phénomènes d'ensemble, qu'on pourrait aussi appeler des phénomènes de complexité ou des phénomènes systémiques. Et donc, et aussi les ensembles d'ensemble qui regroupent des catégories de vivants qui sont toutes incluses les unes dans les autres. Donc, tu as besoin des batraciens pour nourrir les poissons, pour nourrir les hérons, pour nourrir, tu sais, toute cette espèce d'engrenage du vivant dans lequel on est nous-mêmes. On a besoin de tous ces vivants-là pour la production d'oxygène sur la planète, faut pas l'oublier. On a besoin de tous ces vivants-là pour se débarrasser d'une quantité de gaz à effet de serre, parce qu'il y a les poumons de la planète, que sont les forêts, etc., et qui commencent d'ailleurs à poser des problèmes, parce qu'on les attaque beaucoup trop. Ouais. Parce qu'on... Et l'un des problèmes qu'on a avec la biodiversité, c'est que, prends la question des forêts, par exemple, mais pour beaucoup de populations, la forêt demeure une ressource alimentaire de base. Donc, t'as
même une identité pour les Autochtones. Ça peut aller loin. Là.
Ça peut aller à ça aussi. Mais si tu regardes, par exemple, dans les pays qui sont les pays tropicaux, ben, le rapport à la forêt n'est pas du tout celui des Nord-Américains que nous sommes, où, dans le fond, la forêt, c'est un endroit pour aller se promener. Et c'est aussi une source de bois. On va aller couper les arbres pour faire des planches, et puis des 2x4 et le reste. Là. Bon, c'est ça nos problèmes. T'sais, on est dans un approvisionnement de bois pour à la fois la menuiserie et peut-être un peu le chauffage.
Ouais.
C'est un peu ça nos enjeux et le côté ludique du rapport à la forêt. Bon, il y a aussi une petite catégorie de gens qui sont des chasseurs, mais il y a pas grand gens, pas grande personne, sauf effectivement peut-être dans le Grand Nord un peu plus.
Si je rentre la notion de prendre soin,
ouais.
Là, on est dans une considération morale. Donc, est-ce que, je réfléchis là, avec toi, là, mais est-ce que de développer chez l'humain sa capacité d'altérité, d'empathie, de relation aux autres pourrait même l'aider à avoir une relation plus ouverte avec... les questions dont tu poses sur la biodiversité?
Oui, sûrement, mais comme je te dis, c'est plus difficile. Bon, l'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour de la nature.
Ouais.
OK, on pourrait aller de ce côté-là plus. Tu sais, fréquenter la forêt, fréquenter les milieux humides, fréquenter les espaces qui sont encore relativement proche de la représentation qu'on se fait des milieux naturels. Parce que dans le fond, on sait bien qu'il n'y a plus non plus aucun espace sur Terre qui est protégé de l'influence humaine puis des effets de la civilisation humaine. Là. On retrouve des microplastiques en Arctique et aussi au pôle Sud. On est au courant de ça. Bon, alors, ceci étant dit, c'est sûr que la fréquentation des milieux naturels est de nature à nous sensibiliser puis à nous faire percevoir la beauté du vivant, la beauté de l'univers vivant qui nous entoure, la richesse que ça représente. Que ce soit les animaux sont une merveille totale, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est même
tout
au niveau esthétique.
Tout enfant va te dire que t'as raison.
Au niveau esthétique, c'est extraordinaire.
Ouais.
Bon, mais même une mousse sur une roche, c'est extraordinaire. Même un papillon, c'est extraordinaire. Même un ver de terre, c'est extraordinaire. C'est... Alors là, ça joue un peu sur nos présomptions puis nos préjugés. C'est sûr que un koala, c'est peut-être plus sympa qu'une limace, tu sais, a priori, là, à première vue. Mais si t'as plus de limace, on s'entend que t'as un problème.
Ouais.
Là. Donc, les insectes, ça, c'est une des catégories du vivant actuellement qui est très menacée. Puis notamment pour la question de la pollinisation, mais pas seulement pour ça. La population des insectes a chuté d'une manière tout à fait considérable. Et ça, c'est important, mais c'est beaucoup moins sympathique je veux dire, qu'un castor ou un chevreuil ou tu sais, des animaux qui sont beaux, qui sont sympathiques, qu'on est habitué de les voir dans notre environnement un peu. Là.
Ça reste complètement essentiel. Ça, je t'ai à la même place que toi. Il y a dans l'espace public beaucoup d'informations, d'influences qu'on peut avoir qui n'iraient pas nécessairement dans le sens du prendre soin de la biodiversité. Je pense à nos publicités avec des beaux VUS en pleine biodiversité qui nous vendent l'idée qu'on va donc être heureux avec un VUS en pleine nature. Mais il n'y a pas quelque chose des problèmes ou une problématique dans l'espace public qui pourrait amener une tension inverse à ne pas prendre soin du vivant.
C'est bien clair que dans notre civilisation actuelle, qui est une civilisation encore une fois, fondée sur le développement scientifique et technologique qui a été lié à l'énergie. C'est-à-dire le développement des hydrocarbures, des hydrocarbures comme source d'énergie pour les sociétés. Nos sociétés carburent au pétrole, au charbon, et tout ce qui va avec ça, et au gaz naturel. Ça, c'est fondamental. La révolution industrielle, qui a commencé au 18e, surtout au 19e, a changé complètement notre rapport au monde, notre rapport à l'univers. Si on se rappelle des images ancestrales, des gens qui se promenaient en carriole avec un cheval qui traîne la carriole, ça, c'était la réalité de notre espèce il n'y a pas si longtemps que ça. Et on ne s'en souvient pas parce qu'on fonctionne dans le court terme et on est maintenant dans les avions, les VUS, ouais, les hélicoptères, etc. Très bien, mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on vit avec ça. Si on prend les choses à l'échelle de l'histoire de l'espèce. L'histoire de l'espèce, ça n'arrête pas d'hier.
On est dans une parenthèse actuellement.
On est dans une petite période. Évidemment, on est collé sur la vitre, ouais, comme on dit en bon Québec. On est yeux collés sur la vitre, donc on ne le voit pas. Mais on est dans une période relativement restreinte de l'histoire, ouais, de l'humanité où là, on bénéficie d'une source d'énergie incroyable qui nous vient justement des fossiles. Et on fait un usage complètement inconsidéré de ça. Parce qu'on est habitué maintenant et qu'on voit tous les avantages. C'est merveilleux de pouvoir se transporter avec des véhicules automobiles, et prendre l'avion et que ça prenne 2 heures pour faire un déplacement. C'est des avantages objectifs, ça.
À court terme, toujours.
Oui, à court terme, toujours.
Il n'y a pas une notion, il n'y a pas une contribution que la philosophie pourrait nous donner pour nous aider à mieux nous situer en termes temporels. Il me semble que les humains, s'il y avait une plus grande sensibilité au temps, on n'agirait peut-être pas de la même manière avec la biodiversité, je me trompe.
T'as raison. Et effectivement, les philosophes, mais les littéraires, les artistes aussi ont leur part à faire là-dedans. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à se décentrer de cette culture de l'immédiateté puis du bénéfice instantané qu'on obtient grâce à des moyens de transport et des moyens technologiques qui sont les nôtres. Mais ces moyens technologiques-là sont tellement extraordinaires et ont tellement produit des bénéfices que la société est complètement dépendante de ça, quoi. On est tous pris dans cette dépendance extraordinaire.
C'est des bénéfices de proximité, je dirais. Dominique Gravel me disait, le biologiste dont je parlais tout à l'heure, il disait, si on veut influencer les comportements des individus, le mieux, c'est qu'ils soient, qu'il y ait une relation de proximité avec ce à quoi on veut les sensibiliser.
Ouais.
Est-ce qu'il y aurait, au fond, un problème à ce que tous les bénéfices que tu parles, technologiques et autres, qu'on a accès, c'est de la proximité. Ils sont beaucoup plus proches de nous que la nature et la biodiversité qu'on côtoie de moins en moins. Parce que ça devient normal d'être plus attaché à ce qu'on manipule dans notre quotidien qu'à ce qu'on n'a pas en relation. Je me trompe?
Non, tu ne te trompes pas. Mais je pense qu'on a intérêt sur ces questions-là à se rapporter à des situations bien particulières et à des contextes spécifiques. Je te donne un exemple. Dans le journal de dimanche, dans le journal La Presse de dimanche, il y avait un bel article que d'ailleurs on peut retrouver assez facilement si vous avez le journal La Presse. C'est pas difficile à trouver. C'est un article de Francis Vaillès. Qui porte sur Christian Messier, un vaccin contre les incendies de forêt. Donc, c'est paru dimanche, il y a exactement 2 jours, là, dans le journal La Presse. Et de quoi ça parle? Bien, ça parle des incendies de forêt au Québec, qu'on a connus, puis au Canada. Et ça parle du fait que une façon tout à fait appropriée de se protéger contre les incendies de forêt, c'est d'ensemencer les forêts avec des feuillus et avec une variété d'espèces, pas seulement des feuillus, mais peut-être des arbustes aussi, et toutes sortes de plantes comme ça, plutôt que de laisser les choses en l'état. C'est-à-dire qu'en l'état, l'industrie forestière avec les années a consacré un peu le régime des monocultures. Il y a déjà une tendance à un primat total des conifères dans les forêts du Nord, mais on a encore renforcé cette tendance-là. Et aujourd'hui, quelqu'un comme le professeur Messier, qui est à Duco puis à Ducam, dit... Il faut ensemencer les forêts avec du bouleau, avec de l'érable, avec du frêne, avec du feuillu, puis des arbustes et tout ça pour diversifier la forêt. Donc, cette question de la biodiversité, Là, ça devient très concret. On a eu des feux de forêt là, qui sont de plus en plus violents. On se souvient que dans les années précédentes, c'était la Californie, c'était l'Alaska.
Il y en a en Espagne.
En Espagne. Bon, mais là, maintenant, c'est le Québec, ça y est. Là, on est dans le bateau. Mm. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Personne ne peut le prédire, mais il faut prévenir. Il faut se mettre dans une approche agressive et de prévention. Donc, ce qu'on appelle l'adaptation, il faut, les conditions changent. Il faut qu'on change, nous aussi. Donc, et l'une des façons de changer, c'est de commencer à avoir une autre gestion des forêts. Et le scientifique, le forestier en chef du Québec est d'accord. Et là, c'est un autre problème, c'est que pendant ce temps-là, les décideurs politiques, ben, eux, regardent la facture. Là, dans l'article, on parlerait d'une affaire comme 600 millions pour une année. Là.
Ouais.
Donc, évidemment, ben, quand on regarde la facture et qu'on est déjà en déficit, comme vous le savez, là, le gouvernement du Québec est pas mal en déficit actuellement, ben, c'est bon. Hein, qu'est-ce qu'on fait, t'sais? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Bon, voyez-vous. Mais, entre vous et moi, alors c'est là que la question de la valeur de la forêt, donc, valeur intrinsèque de la forêt, il faut la préserver parce qu'elle vaut en elle-même, de un, et de deux, elle nous rend des services considérables en plus. C'est pas d'opposer l'une et l'autre de ces valeurs-là, c'est plutôt de les penser ensemble, c'est de dire, parce qu'on estime l'importance de la forêt, mais aussi parce qu'elle nous rend des services indispensables, protégeons la forêt, mais là, dans ce cas-là, protégeons la forêt, ça veut dire investir 600 millions de dollars selon ses estimés, là, je ne suis pas en mesure de les discuter dans le détail, allons transformer la biodiversité. On parle ici d'une intervention pour transformer la biodiversité. On dit, on ne va pas se contenter juste de laisser ça aller avec des conifères, parce que si on fait ça, c'est comme des boîtes d'allumettes. Ça, quand le feu va revenir là-dedans, ça va recommencer. Il faut diversifier la forêt. Alors, voyez-vous, ce n'est pas nécessairement... Il peut y avoir de la planification, il peut y avoir des interventions humaines, réfléchies, qui prennent en compte un certain nombre de facteurs. Protéger la biodiversité, c'est pas juste aimer les fleurs, puis aimer les papillons. Oui, tout ça est correct. Bon, bien sûr, il faut aimer les papillons, puis aimer les fleurs, j'en suis. Mais il faut aussi planifier. Il faut aussi agir en concertation. Et là, ben, on tombe sur des problèmes de gouvernance, on tombe sur des problèmes politiques, on tombe sur des problèmes d'investissement et d'organisation humaine. Puis il faut faire valoir l'importance de ces investissements-là, les défendre, les justifier, les argumenter, les rendre crédibles. Et ça, c'est... Là, on parle ici d'un seul problème, qui est celui de forêt nordique. Mais on peut avoir le même raisonnement pour les milieux humides, l'enjeu des milieux humides. À chaque année, on détruit les milieux humides une quantité, toujours pour des bons motifs, parce que là, bon, on manque de logement, par exemple, ou alors, etc., etc. Il y a toujours des raisons, hein? On ne fait pas ça pour... Les gens ne le font pas exprès pour partir à massacrer la biodiversité. Ils ont toujours des raisons. Il y a toujours des motifs qui interviennent. La question, c'est ces motifs-là, ben, il faut les mettre en balance avec d'autres motifs. Puis ça prend des porteurs de dossiers pour venir crédibiliser ces motifs-là, parce que les forêts ne se défendent pas elles-mêmes.
J'entends beaucoup dans ce que tu dis l'importance du choix politique.
Ouais.
Parce que la politique, c'est au final prendre des décisions collectives.
Ouais.
Après ça, je conçois aussi facilement que le judiciaire peut aider.
Ouais.
On l'a vu tout de suite avec Norvold, ça n'a pas été long, qu'il y avait des organisations qui amenaient en cours le gouvernement. Alors, il y a différentes manières de donner la parole ou de contribuer à mettre dans l'espace public ou pour prendre des décisions, pour protéger ou non la biodiversité. Moi, ce qui me questionne, ce qui m'intéresse dans le cadre de mon balado, c'est comment nos auditeurs, nos auditrices peuvent se sentir plus interpellés, peut-être individuellement, puis collectivement, pour contribuer à ce débat-là qui génère beaucoup de tensions, puis par où aller. Toi, tu t'es intéressé, d'ailleurs, je pense que ta carrière liée à l'environnement était en lien avec un cours d'eau que tu voulais protéger, je me trompe, avec la gouvernance...
Il y a eu plusieurs projets là, un peu différents les uns des autres. J'avais eu un projet de recherche avec le COGESAF autour du bassin de la Saint-François. Ouais. Mais j'ai aussi eu un projet autour d'un lac. Et j'ai eu un projet récemment avec la MRC de Memphremagog. Puis j'ai aussi eu un projet il n'y a pas longtemps à l'interface entre les biologistes et les hydrologues pour s'aider dans la prévention, pour voir un peu l'évolution de la COVID-19. Ça faisait appel quand même à une approche de gouvernance interdisciplinaire tenant en compte les dynamiques du vivant.
Je serais curieux que tu nous parles justement de ton expérience. Comment les citoyens et les citoyennes s'outillaient, comment ils s'impliquaient dans ce type de démarche-là pour prendre du pouvoir ou partager du pouvoir pour considérer les éléments de la biodiversité?
Mais tu sais, la question de la biodiversité, elle est partout, la biodiversité. Par exemple, si on parle de jardinage urbain ou d'agriculture urbaine, c'est de donner de la biodiversité, c'est de verdir la ville, c'est de verdir les quartiers. Ça peut être tout simplement ça peut être quelqu'un qui dit « Moi, je m'investis dans mon quartier, j'essaie de développer ça, je regarde les jardins communautaires qui existent, je m'investis là-dedans. » Parce que tout verdissement qu'on va faire des milieux urbains, qui est bien fait, j'entends, on ne fait pas n'importe quoi, mais il y a une façon de le faire. Le verdissement des ruelles, le verdissement des quartiers, agriculture urbaine, c'est toutes des façons de végétaliser puis de revitaliser les espaces urbains. C'est super important aussi pour la lutte contre les changements climatiques parce qu'il y a le phénomène des îlots de chaleur. Hein? On est au courant de ça. Quand on est dans des milieux asphaltés, pétés, ciment...
Les gens de Montréal-Nord savent de quoi tu parles.
Bien sûr, mais les gens de Sherbrooke aussi. Ils se promènent sur la rue Gaz. Comprends-tu? C'est pas la même chose que quand t'es à côté du bois Beckett ou t'es en forêt. T'as une différence. Donc, ça, c'est important. Creuser l'asphalte, refaire un espace pour le vivant, pour le végétal, puis l'animal aussi, bien sûr. C'est important. Il y a cet exemple-là, mais il y a l'exemple des milieux humides dont on parlait tantôt. Ça dépend aussi dans quel milieu on est. Moi, je pense qu'on peut déjà commencer à regarder autour de chez soi, dans notre milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire là, dans un premier temps? Moi, ça m'apparaît la première étape. Puis, il y a pas quelque chose à faire. Il y a des gens qui, actuellement, beaucoup de propriétaires, notamment en Estrie, il y avait encore un article là-dessus, et c'est le même dimanche dont je parlais tout à l'heure, où beaucoup de gens, maintenant, sont propriétaires d'un grand terrain, ils communalisent ça, ils disent...
Ah, je l'ai vu, l'article, dans
tout ça. Moi, ça sert, ils disent, moi, ça sert à rien, pourquoi je garderais ça? Pourquoi, qu'est-ce que ça me donne? Il s'arrange pour faire en sorte que ça devient un bien de conservation publique et on travaille avec les citoyens du milieu, on s'organise, on fait des espèces d'organisations citoyennes là, et on confie la gestion de ça selon certaines règles et on protège à ce moment-là un capital, même si on peut avoir des réserves par rapport à ce genre de langage, mais on préserve cet écosystème, ces écosystèmes qui sont à côté de chez nous.
Je vais oser te demander des conseils pour... moi, j'ai été très sollicité à Sherbrooke parce que, je ne sais pas si tu es au courant avec le plan nature, ça l'a mis en pause beaucoup de développement immobilier. Et il y a les grands groupes immobiliers tels que Custo et autres qui ont... je ne sais pas exactement c'est quoi le bon mot, en tout cas. Ils ont été en justice auprès de la ville pour réclamer des sous. Mais... On aimerait contribuer à ce débat-là parce qu'au final, c'est l'argent qu'ils vont aller chercher si ce serait ça la conclusion. Ben, c'est l'argent aussi des citoyens, mais en même temps, c'est pour une biodiversité d'un territoire qui, elle ne m'appartient pas, la terre que le développeur a acheté, mais au final, elle m'aide, comme tu dis, peut-être à avoir moins chaud dans mon quartier parce que c'est le... Alors, comment on peut faire pour se positionner, nous, en tant que citoyens, qui a envie de faire comme « Hey, un instant, on peut changer de paradigme, on peut changer de réalité puis les protéger plus? » Parce que j'ai l'impression que s'il n'y a pas un changement de tu parlais de morale, tout à l'heure, de perception morale de qu'est-ce qui est légitime ou pas, ben on vit, en tout cas, il y a beaucoup de jeunes vivent de l'éco-anxiété parce qu'on se sent impuissant. On veut intervenir, on veut que ça change, mais pas. Si tu as envie de nous donner des petits conseils... Est-ce que tu aurais des...
Écoute, chaque situation est une situation d'espèce qui est à prendre avec un peu des pincettes. Et en même temps, moi, il y a deux choses. Militance citoyenne, organisation citoyenne, prise de parole, mais je dirais aussi un certain respect des institutions dans lesquelles on fonctionne. C'est-à-dire que il y a des gens qui se dévouent pour la cause commune en étant maire, mairesse, etc. Et malheureusement, actuellement, puis je fais un aparté, là, ces gens-là se font de plus en plus harceler. Il y a des violences qui sont commises à l'endroit de ces gens-là. Il ne faut pas entrer là-dedans. OK? Il faut faire attention. On pourra discuter un jour d'autres types de problèmes de militance environnementale, mais si on reste dans ce genre de contexte, où on a des développeurs urbains, on a une municipalité, puis on a des enjeux de préservation de biodiversité puis d'espace, on va dire, naturel, entre guillemets. Bon. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour faire valoir une voix citoyenne là-dedans?
Exactement.
Bien, on commence par se rencontrer, on commence par mettre un agenda sur la table, des points à discuter. On s'arrange pour le faire de manière équitable avec tout le monde qui est là. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a une prise de parole citoyenne qui est à faire auprès des instances de prise de décision. Il y a la mairie, il y a le conseil municipal. Ces choses-là sont accessibles aux citoyens. Mais il y a une façon de faire, il y a un décorum pour le faire. Il y a aussi une continuité dans l'action. C'est que il y a les coups d'éclat, mais il y a aussi la continuité puis la persévérance dans les dossiers. Alors, si on prend un dossier puis on pense qu'en occupant le coin de la rue un après-midi, on va régler le problème, là, non, ça ne se passera pas comme ça. Il va falloir... L'engagement citoyen, c'est quelque chose qui se construit dans le long terme, puis qui demande un réseautage, qui demande une prise en compte de plusieurs sensibilités, puis d'y aller progressivement. Faut juste accepter que ça ne se fait pas automatiquement, puis que ça prend un certain temps. Ça demande de l'organisation, de capacité de se parler, premièrement, de s'écouter. Puis aussi, après, de voir quels sont les canaux auxquels on a accès déjà. On est dans un système qui permet la participation démocratique au débat. Mais comment on le fait? Et on le fait, faisons-le de manière respectueuse et de façon constructive. Alors, ça a peut-être l'air simpliste de dire ça, mais il y a trop de gens qui pensent que c'est tout l'un sous l'autre. Ou bien tu fais rien du tout, ou bien tu casses la baraque. Ben non, il y a d'autres chemins intermédiaires qui sont possibles.
Moi, en fait, je trouve que c'est sage tes propos, Alain, parce que au final... inévitable. J'ai fait beaucoup assez de militance dans ma vie pour savoir que les résultats, ça se gagne pas en peu de temps. C'est un travail collectif de longue haleine. Et idéalement, tu le fais avec des gens avec qui tu vis des relations justement positives, mais ça demande une compétence dialogique, ça demande des compétences de dialogue, de compromis ou autre, que c'est pas ça s'acquiert même dans l'expérience ou dans le temps. C'est pas évident. J'ai envie de continuer avec toi. Moi, j'ai été à la rencontre de la conceptualisation du vivant en écoutant des vidéos de Baptiste Morisot. Je ne sais pas si tu connais Baptiste Morisot en France.
Pas sûr.
En tout cas, il nous invite beaucoup à nous identifier au travers de sa philosophie qui est bien à lui. Il est assez intéressant, là. À nous rendre compte qu'on fait partie du vivant, qu'en étant vivant, plus qu'on en prend conscience, plus qu'on prend conscience que nous-mêmes, il faut se défendre dans le vivant. Il y a une forme de nouvelle conception de soi-même qui sort de l'individualisme. Est-ce que dans tes champs d'études, est-ce que tu as rencontré ce type de transformation que ça peut faire de changer notre manière de voir le monde?
Il y a beaucoup de courants qui ont développé cette piste-là. Je ne sais pas si tu connais les travaux en écologie profonde, notamment.
J'ai lu un peu là-dessus, mais non, je ne connais pas. Je peux pas dire que je connais.
L'un des auteurs les plus célèbres là-dedans, c'est Arne Naess, qui était quelqu'un des pays nordiques, là,
ouais.
qui développait toute une philosophie basée justement sur cette idée d'une participation des vivants singuliers à un ensemble plus vaste de vivants, et donc de décentrer justement l'individu pour penser une appartenance à un collectif du vivant, là. Et effectivement, il y a toute une philosophie qui va de ce côté-là, qui tente de créer comme ça une nouvelle motivation, un sens nouveau de l'appartenance au monde vivant pour se mobiliser un petit peu plus, là, puis passer aux actions. Là. C'est... Oui, oui, ça existe. Écoute...
Qu'est-ce qu'on retrouve d'attractif aussi là-dedans, ces gens-là qui ont pensé la comment tu l'appelles?
L'écologie profonde.
L'écologie profonde. Mm-hmm. Et j'imagine qu'on ne se lance pas là-dedans juste parce que c'est dur, que ça va être des sacrifices. Ou, il doit y avoir quelque chose de nourrissant là-dedans, je me trompe?
Oui, ben c'est une sorte de... Une sorte d'éco-cosmologie, on va dire. Okay. C'est une nouvelle conception du monde qu'on tente.
Cosmologie, juste pour nous aider. Là.
Cosmologie, ben, c'est une conception du monde ou de l'univers.
OK. Hein.
C'est ça, cosmologie. C'est un discours à propos du cosmos. Le cosmos étant l'univers organisé. Ouais. Bon. Donc, c'est ça. Donc, tu essaies de penser autrement notre rapport au monde, justement, de dire. Dans notre civilisation, on va dire, classique, issue, disons, de la modernité, je pense donc je suis, donc, puis après ça, disons, le développement de la philosophie individuelle avec le droit de propriété individuelle et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a développé, et le libéralisme, comme culture politique, est fondé sur les droits de l'individu.
Ouais.
Donc, la protection des droits de l'individu comme étant un élément fondamental. Bon, puis là, on essaie de se dégager de cette espèce de vision des choses qui, encore une fois, a été très payante et très importante culturellement. Et ça fait en sorte que nous sommes, par exemple, titulaires de droits individuels. Okay? Nous savons que nous avons des droits.
En termes de contrat social puis de vivre ensemble,
exact.
Ça nous a aidés.
Bien sûr. Par exemple, de reconnaître la question du droit des femmes.
Ouais.
C'est un exemple de ça, où un jour, à un moment donné, on a commencé à discuter de ça, puis de concrétiser le fait que, ben oui, les femmes ont des droits, puis ces droits sont aussi importants que les droits des hommes, et que donc, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à nouveau nos façons de faire, puis de travailler ensemble, puis de s'organiser pour tenir mieux compte de ça. Et c'est un processus en cours. Qui peut mener à qui est en cours. Donc, il n'y a personne qui a de boule de cristal, OK?
Ouais.
Mais en même temps, on sait que c'est très inégal sur la planète. Cette question-là, si on la pose au Québec, c'est pas la même chose que si on la pose...
En Iran
ou ailleurs. Bon, alors, c'est massif, quoi. Donc, la question du droit individuel et du fait que l'individu existe, je pense que... On va vouloir quand même préserver ce gain historique de l'identité personnelle et du droit individuel. On ne voudra pas le passer complètement à la poubelle, tu sais, pour arriver dans une espèce de soi-disant cosmogénèse holistique où là, on n'aurait plus d'individus et on serait fondu dans un grand tout. Je ne suis pas sûr qu'on veut aller là. Bon. Mais ceci étant dit... De penser nos appartenances sociales, le fait qu'on a besoin des autres, que l'individu ne se construit que par les autres, ça, c'est fondamental. L'individu n'existe que parce qu'il est dans un micro-écosystème qui est son papa, sa maman, environnement immédiat, que ce soit un parent, un autre, peu importe, et qui fait en sorte qu'on se construit comme individu. On se construit comme individu dans le rapport aux autres tout le temps.
On entend un peu ça, Alain.
Mais c'est un fait.
Je sais que c'est un fait, mais...
C'est un fait fondamental.
On l'entend un peu quand même.
Donc, cette interdépendance, elle est profondément humaine aussi. Mm. Donc, puis ça, c'est... Encore une fois, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est en train de faire ce tournant-là, même en sciences sociales et en philosophie politique et philosophie sociale. Ça commence il y a à peu près un siècle avec des gens comme John Dewey, par exemple, dans le mouvement pragmatiste et d'autres. George Herbert Mead, où on va, etc., etc., il y en a d'autres, des sociologues aussi, qui ont montré ça, et qui font en sorte que là, ben, on est obligé de repenser notre rapport au monde, parce que ce n'est plus la... Mais par défaut, la culture massivement dominante, ça reste la culture de l'individu. Et on est dans une société, comme tu sais, consumériste, fondé sur la réussite personnelle, les ambitions personnelles, et tout ça. Donc, et chacun dans son univers privé, etc., avec sa famille et tout le reste, c'est comme ça. Donc, la prise en compte de l'état actuel de notre culture, si on veut amener la culture plus loin, ben, faut commencer par comprendre où est-ce qu'elle est maintenant.
Ouais.
Pour peut-être l'amener ailleurs. Mais ça va prendre un peu de temps.
Je vais être audacieux, je vais aborder un sujet. Tu l'abordes ou pas, Alain? Mm-hmm. Il nous reste 10 minutes à peu près.
Ouais, okay.
J'écoutais hier une émission aux Années-Lumière, je pense, il y a 5 ans que ça, de ça, et il y avait des scientifiques qui s'étaient rassemblés avec des personnes autochtones où est-ce qu'il y avait mm-hmm. une discussion sur la valeur du savoir scientifique versus la valeur du savoir autochtone, qui est une valeur. Un savoir millénaire, en relation en fait constante avec la nature.
Exact.
Dans une relation très empirique, parce qu'au final, si on comprit pourquoi que tel aliment, tel élément de la nature produisait, ben, ils l'ont fait, puis le même résultat pouvait être dans la même communauté ici que l'autre bout du Canada. C'est comme très pratique. Et je reviens au concept libéral dont tu parlais, qui nous a amené à avoir une plus grande sensibilité ou une plus grande importance qu'on accordait aux droits individuels. Mais il n'y aurait pas une forme de droit relationnel qu'on ne considère pas sur le même pied d'égalité avec des gens comme des communautés autochtones qui auraient un autre type de relation au vivant, qu'on a parlé depuis le début de l'émission, qui est une relation qui est beaucoup plus, comment tu l'as nommé, qui a une valeur en soi, là.
Une valeur intrinsèque.
Une valeur intrinsèque. Est-ce qu'il y a une forme d'injustice de considération de droit relationnel? Ça existe-tu, ces questionnements-là ou ces réflexions-là?
Oui, tout à fait. C'est majeur, là. C'est très présent actuellement, cette discussion-là. Et les Premières Nations, que ce soit les Inuits ou les Premières Nations en tant que telles, les peuples, les premiers peuples, partout sur la planète, sont à l'avant-plan pour faire valoir de nouvelles considérations, justement, de notre rapport au vivant. Mais ce qui est un peu tragique, c'est qu'en même temps, ben, ces peuples-là sont aussi engagés dans le même processus civilisationnel que le nôtre. C'est-à-dire que... on le voit, ils sont dans des maisons, ils ont des problèmes de transport. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été intégrés par la force des choses, là. Et un peu par la contrainte aussi, mais il faut voir. Là, c'est toute la question du colonialisme aussi qui peut être posée à l'occasion de ça. Les premiers peuples ont été déculturés et réinculturés dans une société qui est la nôtre.
Au Canada, on peut vraiment même parler de génocide. Certains l'ont fait.
Certains l'ont fait. Alors, écoute, là après, mais ces gens-là se souviennent d'un autre type de rapport. Ils ont encore ce rapport à la nature, mais évidemment, en même temps, ils sont les premiers à voir très bien comment le monde écosystémique qu'ils ont connu ou que leurs parents ont connu est en train de disparaître sous leurs yeux.
Ouais.
Parce que le permafrost qui est plus stable, tu peux plus te promener en traîneau à chien comme tu veux n'importe où. C'est fini, là, t'en aller pendant, tu sais, la glace est plus la même. Tout est en train de changer. Ils le voient. Et donc, c'est pour ça qu'ils lèvent le bras en disant, ben écoutez, là, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose d'important. Et ils ont raison. Mais... qu'est-ce qu'on fait avec ça comme société? Comment on arrive à prendre ça réellement en compte? Toi, tu parles de nouvelles configurations du droit. On attend un peu la naissance de ces nouvelles configurations-là. Ça serait des revendications à expliciter puis à intégrer dans nos préoccupations. Mais on est encore un peu au balbutiement, j'ai l'impression. Parce que d'un côté, on rappelle les figures ancestrales, donc un rapport au cosmos très différent, fondé justement sur la participation et le respect des vivants.
Mm-hmm.
Vivants, l'ours, etc.
Dans une relation de proximité.
Une relation de proximité, dans une quotidienneté aussi, dans une fréquentation normale, régulière, qui est profondément transformée actuellement. Donc, c'est vraiment une histoire à suivre et on espère que quelque chose va sortir de ça qui pourrait être structurant.
Merci, Alain. Je termine toujours par demander à mes invités comment ils traduiraient leur relation au vivant. Je serais curieux de t'entendre, toi, avec ça a été présent toute ta vie, ces réflexions-là, tant professionnelles, peut-être même personnelles, j'imagine. T'aurais-tu l'aimabilité de nous partager un peu sur ta propre relation au vivant?
Écoute, ce que je peux dire, c'est que, bien sûr, je suis vivant, je suis en interaction avec plein de formes vivantes autour de moi, au quotidien. Je vis dans un milieu plutôt urbain. J'ai la chance de pouvoir osciller un peu entre la campagne et la ville, puisque j'ai un pied à terre en Estrie, tout en habitant à Montréal. Donc, à la campagne, quand je suis en Estrie, c'est sur le bord d'un lac. Fait que j'ai un rapport à la nature qui, là, est différent de celui que j'ai en ville, si on peut dire. Mais en ville, j'ai le parc du Mont-Royal, j'ai les pistes cyclables sur le bord du fleuve aussi. Donc, pour moi, le fleuve est est quelque chose de merveilleux. Puis les forêts sont quelque chose de merveilleux. Le rapport aux forêts, le rapport à la montagne sont des choses très nourrissantes pour moi. Et voir les vivants autour de moi, que ce soit un lichen sur une roche,
ouais.
Qu'un bambi que je vois passer à travers en deux arbres, que peu importe, c'est quelque chose de très nourrissant pour moi, puis qui me fait beaucoup de bien, qui me cultive, je dirais. Je suis à l'écoute de ça et je suis en observation.
Tu te permets d'être sensible vis-à-vis de ce que tu ressens ou ce que tu vis avec la nature, le vivant, c'est ça?
Bien sûr. Et notamment, le vélo est un moyen de transport magnifique pour ça, l'été, là, en particulier l'été, évidemment. On a tellement des belles pistes cyclables maintenant, qui sont plus ou moins aménagées selon les cas, là, mais qui permettent un contact avec le végétal, avec les petites bestioles. Il faut faire attention à certaines bestioles aussi. Là. Oui, nos sens.
Nos sens en voiture, on le sent moins.
Exact.
L'odeur même.
L'odeur, bien sûr, le parfum des plantes.
La chaleur sur nos joues qui tape.
Oui, tout à fait.
Donc, ben, merci, Alain. Merci beaucoup de ta générosité.
C'est moi qui te remercie.
C'était vraiment agréable. On se reparlera assurément de ces sujets-là.
Mais je l'espère.
Je remercie aussi mon ami Nan qui a fait un super logo pour moi, la radio CFAC qui me permet de ces enregistrements. Et on se dit à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bye. J'espère que vous avez apprécié les échanges et les réflexions. Il me ferait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions pour que je puisse améliorer la qualité du balado. Vous pouvez me les communiquer via la page Facebook Juste pour vivre, mon LinkedIn ou sur Instagram. Profitez-en pour partager les entrevues que vous avez aimées et restez à l'affût. Une vingtaine d'épisodes sera mise en onde d'ici la fin de l'été. À bientôt!